secrétaire voilée a astucieusement épinglé un pan de son foulard d'une oreille à l'autre, ne laissant apparaître que ses yeux. Elle lui indique la salle d'attente d'une main gantée, ça y est. On ne se parle déjà plus. Du ruban de chantier condamne 3 sièges sur 4 Léa n'est jamais allée à Bagdad, mais elle suppose qu'en ce moment, elle n'y serait pas dépaysée. Elle s'installe, son sac sur les genoux, se frictionne les mains au gel mentholé et déverrouille son téléphone. Antoine se demande où elle est, ce qu'elle fait. Il veut lui parler. Rien d'important, qu'elle ne s'inquiète pas. Enfin, si, très important. Mais pas grave. Il veut lui parler de cet enfant, de ce bébé, de ce truc qui pousse en elle et qui est, il a bien réfléchi, le plus magnifique des doigts d'honneur à toutes les règles actuelles en vigueur. L'acte le plus rebelle de leur vie, de sa vie en tout cas. Car celle de Léa, il ne la connaît pas encore très bien. Il veut lui dire et il va lui dire, comme ça, parce qu'elle ne décroche pas. Il lui écrit sur WhatsApp qu'il est heureux, que c'est ce qu'il veut. Un projet énorme, périlleux, fou, dangereux. Un enfant à deux, aujourd'hui, dans ce monde-ci. Toutes les 15 secondes, le smartphone de Léa bat la mesure du lyrisme d'Antoine en vibrant. Antoine qui explique qu'il a toujours fui les responsabilités, qui raconte ne pas avoir eu le bon modèle d'amour à la maison, n'avoir jamais connu les bras de son père. Antoine qui décrit sa mère qui, elle non plus, n'avait pas les bons gestes. Ses étés aussi, à regarder le plafond de sa chambre, cette solitude qui lui donnait l'impression d'avoir déjà 80 ans quand il n'en avait que 8. La prison de la famille. Antoine qui lui dit qu'il veut cet enfant. Qu'il le sent, qu'il le sait, qu'il est prêt et qu'il espère que elle aussi, elle l'est. Léa tapote l'écran et rappelle. Ça sonne. À cet instant, elle entend qu'on appelle son nom, se lève et se dirige vers la voie derrière la porte. Il y a un dessin épinglé au mur du cabinet, un couple de bonshommes allumettes qui en tiennent un plus petit par la main, dans un grand soleil. Léa se lance. Est-ce que vous pourriez m'aider à arrêter de fumer, c'est pour mon nouveau locataire, dit-elle en se désignant l'abdomen. Dans le fond de son sac à main, un hurlement de joie.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 50e jour. Mardi 5 mai, Antoine est parti tôt ce matin. Il a dit qu'il allait au garage essayer de recoller les pots cassés avec son boss, Alessandro, qui n'est vraiment pas un salaud, ni très regardant. La preuve, il le faisait bosser au black. S'il lui explique la situation, il pourrait le reprendre. Antoine en est presque certain. Sandro place la famille au-dessus de tout. Alors quand il va lui dire que lui aussi, il va devenir chef de clan, et puis s'il lui fait les yeux doux, c'est sûr, il va le remettre au boulot. Et au cas où, il rappellera à Sandro qu'il a toujours dit qu'il était le meilleur pour redresser les cadres et les châssis. « Tu es le Jésus de la tôle », qu'il disait. Léa est seule dans l'appartement. Elle fait des ronds dans son café et regarde le tourbillon qui s'agite dans son bol. Un jour, il faudra dire combien cette épidémie a jeté les gens le dos au mur dans des situations inattendues, risquées, rudes, cruelles, inhumaines, ou plus simplement étonnantes, oui. Étonnante. Léa se souvient qu'au premier jour de panique du confinement, comme une petite vieille, elle avait placé ses sous et ses paquets de pâtes sur la table, comptant combien il lui en restait, combien elle pourrait en manger et combien elle pourrait en acheter. Une folie. Sans penser qu'à 20h, elle ouvrait la fenêtre pour applaudir dans le vide. Une autre folie. Sans compter que, pour fêter sa quarantaine, elle avait rameuté un plan cul, qui aujourd'hui n'était plus ni cul ni plan, mais le père de son enfant. La folie des folies des folies. Elle pense, comment tout cela est-il arrivé? Il n'y avait rien ce jour-là. Et le lendemain, il y avait le chaos. Hypnotisée par les cercles concentriques qui se forment dans son mug, elle pense à des choses idiotes, des choses qui ne sortiront pas d'ici, qui resteront entre elle et son bol de café au lait. Elle pense qu'un garçon qui a pu réparer son chauffe-eau est un garçon capable d'entretenir la chaleur et qu'il fera un bon père. Elle pense qu'un homme qui a voulu sauver un autre homme devant elle ne peut être qu'un type bien. Elle pense qu'elle pourrait se rattraper, se faire pardonner, qu'elle pourrait rendre hommage à la bête et baptiser son fils Derek. Mais elle trouve que c'est quand même pas terrible comme prénom Derek. Surtout si c'est une fille. Elle songe, mais comment tout cela est-il arrivé? Hier j'étais seul, aujourd'hui je suis 3. Lui, moi toi. Alors elle laisse gambader ses pensées et elle se dit que cet enfant n'est pas le produit d'une guerre, mais le résultat d'un Big Bang entre un carrossier et une caissière qui sont passés entre les mailles du filet du virus. L'espace d'une seconde, elle se dit qu'en rentrant de chez son patron, pour couronner le tout, Antoine va la demander en mariage. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, un mariage? Et pourquoi pas l'église, tant qu'elle y est? Et la bénédiction du pape François? Elle connaît à peine le père, elle ne sait même pas s'il croit en Dieu, et puis même s'il y croyait. 8 semaines, 8 000 morts. Il n'y a pas de quoi perdre la foi, cher François. Et puis, elle se lève. Un peu comme un chien qui s'ébroue en sortant de l'eau. Elle allume la radio pour écouter ce feuilleton qu'une bande de zinzins écrivent tous les jours pour raconter l'amour à l'heure du Covid-19 et sur lequel elle a fini par accrocher. Elle avait dit à Antoine « C'est pas mal. » Mais elle arrive trop tard. Le feuilleton est terminé. À la place, elle entend « C'est comme ça » d'Erita Mitsuko et elle se met à danser en renversant un peu de café.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Il paraît que dans le langage des fleurs, la tulipe symbolise l'amour et tous les sentiments qui en découlent. L'attachement, l'amitié, que des mots en « a », comme « autre », comme « aventure », comme « avenir ». La tulipe rouge désigne un amour sincère et fort. La blanche, un amour idéaliste et extrême. La rose, un amour en train de naître. La jaune exprime l'inquiétude pour la personne que l'on aime, mais aussi pour la durée de l'amour qui nous lie à elle. Alors que la noire reflète un amour profond, mais qui se vit dans la douleur de l'absence ou de l'éloignement. Depuis 8 semaines, la rue de la Tulipe en a vu de toutes les couleurs. Mercredi 6 mai, fin d'après-midi, Julien n'a pas envie de rentrer chez lui. Ça tombe bien, Antoine lui a dit de passer prendre une bière. Une seule, promis, pour se vider la tête, colorer ce visage marqué par le port du masque et des lunettes. T'inquiète, lui a dit Antoine au téléphone, Léa est au courant. Elle ne va pas nous engueuler cette fois. Julien s'engage dans la rue de la Tulipe, à l'autre bout du trottoir. Il y a un type qui s'approche, masqué comme lui. Il porte un uniforme de facteur et un colis qui a l'air de peser son poids. Ils se rejoignent devant le numéro 72. Ils ont la même destination, ils sont là, figés, à attendre un peu bêtement que l'autre se décide à sonner. Cette obligation de distanciation appliquée à des citadins qui ont perdu l'habitude de se parler donne lieu à des situations que l'on trouverait marrantes dans un film, mais qui sont en réalité plutôt ridicules dans la vraie vie. « Excusez-moi, pourriez-vous sonner pour moi au 4e, s'il vous plaît ?» Là où c'est écrit « Smensk », mon paquet est lourd. Julien s'exécute, une voix de femme grésille dans le parlophone. « Oui ? Bonjour madame, c'est Diogène le facteur, vous m'avez dit de passer l'autre fois. Ah oui, montez, j'ai quelque chose pour vous. Moi aussi madame, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Au déclic, Julien pousse la porte de tout son poids pour laisser passer Diogène. Les deux hommes se suivent dans l'escalier. Des images du géant terrassé que Julien et son collègue ont évacué il y a quelques semaines lui traversent l'esprit. Smensk, un nom qu'on n'oublie pas. « Vous connaissiez le monsieur qui habitait au 4e ? » demande Julien. « Non, » répond Diogène. « Je connais sa fille. C'est elle qui a repris l'appartement maintenant. Il paraît qu'il est mort, lui. »« Oui, je sais. » Arrivé au 2e, Julien prend congé de Diogène, lui souhaite une bonne soirée et frappe à la porte de Léa et d'Antoine. L'atmosphère est différente de la dernière fois, plus légère, il y a dans l'air quelque chose d'une crise qui s'achève, alors que tous savent qu'elle ne fait peut-être que commencer. Mais on veut croire que le pic est derrière nous. Maintenant, nous allons pouvoir sortir et réapprendre à vivre. C'est un pas en avant. Il est effrayant, mais c'est un pas en avant. Tout en respectant les règles du confinement, Antoine lui lance une canette glacée. Il trinque de loin. Comme eux, c'est sûr, plein de gens se retrouvent à la même heure sur Skype ou FaceTime pour prendre l'apéro, ne pas perdre le contact, voir des visages amis. Trinquer sans faire teinter les verres les uns contre les autres, mais trinquer tout de même. Trinquer pour un jour de plus passer sur cette terre. Trinquer parce que c'est bon d'être vivant. Trinquer aux autres, qui, nous l'avons découvert, sont la plus belle chose au monde. Santé, Chin, à la vôtre. Julien, on avait un truc à te dire avec Léa. Plusieurs coups secs à la porte interrompent Antoine. Claire apparaît sur le palier, elle porte une énorme casserole. Derrière elle, Léa reconnaît le facteur. Le visage à moitié caché par un masque estampillé de Beast. Diogène m'a apporté de l'attiéké au poulet grillé. Il y en a beaucoup trop pour moi toute seule. C'est un plat de mon pays, intervient Diogène, et une spécialité de maman. Elle fait le meilleur attiéké au poulet du monde. Il y en a pour 5 au moins, si ça vous dit. Alors, Léa a sorti quelques chaises pliables sur le palier. Antoine s'est occupé de réchauffer la casserole. Julien a distribué de quoi boire à tout le monde. Claire a rempli les assiettes profondes. Et Diogène a réparti les couverts. Il n'y a pas de balcon au numéro 72 de la rue de la Tulipe. Pas de jardin non plus. Alors ce soir-là, pour ne pas enfreindre la règle de distanciation physique, 5 personnes qui ne se connaissaient pas il y a 8 semaines ont mangé ensemble sur le palier du deuxième, assis sur une chaise ou une marche d'escalier. 5 vies qui, sans cette crise, ne se seraient jamais croisées et n'auraient jamais partagé un plat traditionnel de Côte d'Ivoire. Julien se tourne vers Antoine. « Tiens, tu voulais pas me dire un truc tout à l'heure ?» Antoine sourit. Julien a compris. Jusqu'au tout petit matin du jeudi 7 mai de cette drôle d'année 2020, au numéro 72 de la rue de la Tulipe, 5 êtres humains ont trinqué à une vie nouvelle.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 52e jour. Vendredi 8 mai 2020. Personne ne le sait, mais ce matin, tous les habitants du 72 rue de la Tulipe se sont réveillés en même temps, à 8h12 exactement, sans raison précise. Peut-être qu'à force d'être cloîtrés, les corps se synchronisent. Au premier, Lydia envisage d'engager un tueur à gages pour se débarrasser définitivement de son ex qui la terrorise, ou au moins quelque type dangereux qui lui démontrerait la gueule. Il est temps que la peur change de camp. Ou alors elle pourrait commencer un sport de combat, c'est ça. Dès que ce sera possible, elle s'inscrira dans une salle. Elle s'entraînera et elle lui déboîtera les deux épaules, c'est ça. C'est exactement ça. Au troisième, Elsa, 15 ans, se rappelle que dans 2 jours, ce sera la fête des mères. Pour la première fois, elle n'a pas de cadeau. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être bricoler quelque chose ou aller chercher les croissants ou éviter de faire la gueule pendant quelques heures. Elle se promet d'essayer. Au quatrième, Claire regarde le ciel à travers le Vélux allongé dans son lit. Tout est possible désormais. Elle entame le deuil d'un père qu'elle n'a pas connu. Elle tente chaque jour un peu plus de se réconcilier avec le mort. On a beau parfois ne pas y croire, mais toutes les plaies finissent par cicatriser. Et maintenant ? Maintenant, ce qui va compter, ce sera le clan. Appartenir à une tribu n'a jamais été aussi vital qu'aujourd'hui. Et il y a 2 nuits, sur ce palier, avec ces gens qu'elle connaît à peine, elle a eu la sensation d'être à sa place. Et si l'histoire ne faisait que commencer ? Enfin, au deuxième, Léa ouvre les yeux et regarde Antoine dormir. Elle pense à ce qui les attend, la grossesse, le bébé, le couple, la famille, le Covid, la crise économique, les épidémies à venir, l'effondrement que certains ont évoqué. Une certitude, il va falloir avancer dans le brouillard, ne pas se lâcher la main, faire confiance. Des mensonges, il n'y en aura pas, se dit-elle. Même si elle sait que les épreuves viendront, le désir qui faiblit, l'ennui qui s'installe, l'envie d'aller aimer ailleurs. Faire confiance, oui, voilà ce que nous ferons, car sans confiance, les mains finissent par se lâcher et le brouillard se referme. On verra demain. Aujourd'hui, elle aime cet homme qui justement vient d'ouvrir les yeux. Elle prend la main d'Antoine et la pose sur son ventre. Elle pense, là, maintenant, ce matin du 8 mai, nous sommes immortels. Dans chaque appartement, les mêmes gestes, presque simultanés. Le café qu'on prépare, les dents qu'on brosse, la chasse qu'on tire, les fenêtres qu'on ouvre, les cheveux qu'on arrange, pour affronter une nouvelle journée. Dans le monde, 269 598 personnes sont décédées des suites du virus. Près de 10 000 chez nous en Belgique. Chiffre que l'on dépassera dans les prochaines semaines. Dedans, il y avait Derek Smensk, et puis le papa d'un ami, et puis tant d'autres. La main d'Antoine est toujours posée sur le ventre de Léa. Il ne dit rien, mais dans son crâne, ça se bouscule. Ils vont donner la vie. Mais c'est quoi la vie ? C'est quoi finalement ? Une vie. D'abord, il y a la lumière. Un premier regard qui nous met au monde, une main sur notre joue, un prénom, des premières fois, une infinité. Premier pas, première larme, premier cauchemar, première dent, station debout. Un premier moment dont on se souviendra, une fête d'anniversaire, une bougie, deux, trois, quatre, des rires quotidiens, un vélo. Des trajets à l'arrière de la voiture, des paysages qui défilent, et puis on voit la mer et on est foudroyé. On pense, c'est immense. On s'est habitué à la vitesse du vélo, on veut aller plus vite encore, l'école, tous les jours. On attend de pouvoir enfin vivre sans savoir que ça a déjà commencé. L'horloge tourne tranquillement. Quelques échecs qui ne nous tuent pas encore. Le premier amour, l'échange de salive, puis de fluide. D'autres amours. On découvre la souffrance qui ne nous quittera plus. On comprend que la mort n'est pas une ombre, qu'elle frappe parfois, sans savoir encore qu'elle portera de nombreux coups. L'horloge tourne un peu plus vite. On a 18 ans. On lit un livre qui bouleverse tout. On se dit qu'on ne ressemblera pas à nos parents, qu'on sera voyageur, premier passeport. On lit d'autres livres, on boit, on danse, on pose nos mains sur des peaux qu'on oubliera parfois. On croit s'être libéré de tout et un beau matin, on a 20 ans. On cesse d'être immortel. C'est un choc. Et tout s'accélère encore. On souscrit ses premières assurances, on marche à côté de sa vie parce qu'on veut devenir quelqu'un et puis on remercie son père d'avoir été un bon père. Et quelques jours après, on entend pour la première fois le bruit que fait la terre quand elle tombe sur un cercueil. On a des amis. Le travail est la récompense d'années d'efforts. Les réunions se multiplient. Et puis dans un bar ou à la suite d'un rendez-vous Tinder, on croise la bonne personne. Salive, fluide, à venir. Une maison avec un jardin. On fait un bébé, deux, trois. On se demande comment les nuits avant pouvaient être aussi longues. On ne se souvient plus. Un beau matin, on a mal aux genoux. Et cette putain d'horloge qui tourne de plus en plus vite, les bébés ne veulent plus qu'on entre dans leur chambre, on va chaque année en vacances au même endroit, moins de salive, moins de fluide, et ce foutu genou qui ne guérit pas. Et puis on a 40 ans. On se dit, déjà 40 ans que je me débats. On sait que le temps ne reviendra plus, on arrête le sport, on aime moins, on a moins d'amis, on ne danse plus, il faut opérer le genou. On commence à tutoyer son médecin, et un jour, un oncologue en blouse blanche fait la grimace avant de s'exprimer. On commence à s'agenouiller alors qu'on a toujours douté. On regarde le ciel différemment. On ne peut plus opérer. Dernière fois. Dernière larme. Dernier matin. On ne verra plus jamais la mer. Et puis, l'horloge s'arrête. La terre fait un bruit sourd quand elle s'écrase sur le cercueil. Une pierre, deux dates, entre elles, quelques insignifiantes années. Antoine, c'est ce qu'il pensait de la vie d'avant. Il croyait, parce que c'est ce qu'on lui avait dit, que vivre, c'était subir, que la vie, c'était comme ça, qu'on ne pouvait en dévier. Mais aujourd'hui, ce matin du 8 mai 2020, la main posée sur le ventre de Léa, il est prêt à attaquer le nouveau monde. Alors, il se blottit contre le bébé et il voudrait que cette seconde dure encore longtemps. Car là, maintenant, oui, malgré la mort, malgré la peur, il ne se l'était jamais dit, mais ils sont immortels.